Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Immo, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce quatrième opus du confort dans l'habitat avec Promotelec. Et aujourd'hui, nous allons parler, en ce mois de décembre, de précarité énergétique. Nous sommes au début de l'hiver et c'est un sujet qui nous préoccupe pour beaucoup d'entre nous de façon assez profonde et intime. Je suis très fier d'accueillir aujourd'hui pour discuter de ce sujet France Michel de la Fondation Abbé Pierre et qui est responsable du programme Toi d'abord. Bonjour France.
Bonjour.
Et puis Nicolas Clondon d'EDF qui travaille à la direction de l'action territoriale à la direction des collectivités. C'est bien ça Nicolas ?
Tout à fait.
Bonjour. Merci.
À tous.
Merci d'être parmi nous. Et puis the last and the best, Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec, notre invité permanent et grand témoin de cette émission.
Bonjour.
Bonjour Dominique, et donc c'est parti pour cette quatrième émission consacrée à la précarité énergétique.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Dominique Desmoulins, précarité énergétique, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
Alors c'est un sujet qui n'a pas été oublié par le plan de rénovation qui a été lancé au mois de septembre, donc un plan de rénovation énergétique, je dirais, pour l'ensemble des bâtiments existants, dans lequel on parle de volume de 1,5 million de passoires énergétiques pour lesquels on veut intervenir pendant une dizaine d'années, ce qui ferait 150 000 par an. Bon, alors quand on compare ces chiffres avec ce qu'on connaît, on sait que l'ANA aujourd'hui, donc l'Agence nationale pour l'habitat, doit rénover environ 75 000 logements. Bon, donc comment on arrive à 150 000, j'en sais rien. Donc est-ce que ces chiffres sont à confirmer ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quelles sont les aides qu'on va mettre en place, ou que le gouvernement va mettre en place, ou que les associations comme l'Abbé Pierre ou EDF vont mettre en place pour, je dirais, atteindre ces objectifs. Et puis un dernier point qui concerne aussi Promotelec, c'est que Promotelec travaille beaucoup sur les C2E et sur la sécurité électrique.
C2E ?
Certificat d'économie d'énergie. Merci. Donc évidemment, c'est un des moyens de faire de la rénovation en France, que ce soit, je dirais, avec les particuliers ou les bailleurs sociaux. Et puis la sécurité électrique, c'est un de nos soucis permanents. Et généralement, l'insécurité électrique va de mise avec la précarité énergétique, puisque dans les logements les plus dégradés, c'est logiquement là qu'on trouve les installations électriques les moins en forme et les plus dégradées. Donc Promotelec a toute sa légitimité sur ce sujet. Et on est ravis d'avoir nos deux invités qui vont nous éclairer ces sujets-là plus profondément.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
France Michel, la Fondation Abbé Pierre, tout le monde connaît, mais est-ce que vous pourriez malgré tout nous repréciser en quelques mots le périmètre de vos missions ? Parce qu'il y a des choses qui vont s'en dire, mais elles vont forcément mieux lorsqu'on les dit.
Alors oui, la Fondation Abbé Pierre, créée par l'illustre Abbé Pierre, elle intervient aux côtés des défavorisés, au sens large. Elle lutte en premier lieu contre le mal-logement, en mettant en lumière toutes ses facettes. Elle vise à interpeller aussi le politique pour faire reconnaître ce problème et puis qu'il y ait une traduction dans nos politiques nationales et à travers la solidarité nationale de ce sujet-là. Et puis elle agit concrètement aux côtés des mal-logés pour les mal-logés. On aura peut-être l'occasion de revenir
sûr.
Dessus.
Bien sûr. Et alors dans ce contexte et par rapport à votre travail quotidien, la précarité énergétique, quelle définition vous en donnez ?
Alors la précarité énergétique, c'est un phénomène assez massif qui concerne un ménage sur 5 en France, 12 millions de personnes aujourd'hui. Donc on voit que c'est malheureusement un phénomène assez banal qui se manifeste de différentes façons auprès de différents publics. Mais en gros, c'est avoir froid dans son logement, donc se priver de chauffage pour s'alimenter par exemple. C'est consacrer plus de 10% de ses ressources au paiement de ses factures. Et ça concerne, donc je le disais, beaucoup de personnes, mais en particulier, évidemment, les personnes les plus modestes.
Alors, précarité énergétique, forcément énergie. Mmh. Nicolas, EDF a une posture particulière sur cette approche de la précarité énergétique ?
Évidemment. Pour EDF, la lutte contre la précarité énergétique, c'est une priorité, et depuis de longues années. Et on est très heureux d'ailleurs de pouvoir développé depuis de nombreuses années un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, notamment dans le cadre du programme Toi d'abord. Peut-être qu'on y reviendra.
Bien sûr.
Pour nous, la précarité énergétique, effectivement, c'est 12 millions de personnes qui, aujourd'hui, notamment, dépensent plus de 10% effectivement de leur budget pour se chauffer et s'éclairer. Et pour nous, c'est une approche vraiment de tous les jours, à travers notamment le travail de nos 300 conseillers solidarité qui, sur le terrain, au contact des clients ou au contact des travailleurs sociaux et des structures partenaires, eh bien essayons de lutter contre cette précarité à travers des aides et à travers aussi beaucoup d'actions de prévention.
D'accord. Et vous avez des mécaniques d'identification parce que j'imagine que lorsqu'on est en précarité énergétique, on a du mal à se manifester sur ce point. Vous avez des mécaniques d'identification de vos clients ?
Alors, nous travaillons évidemment dans le respect des règles, notamment de la protection des données personnelles, mais nous travaillons évidemment étroitement avec les CCAS, avec les fonds de solidarité logement, donc à travers les communes et les départements, mais aussi à travers les 170 structures de médiation sociale avec lesquelles nous sommes en partenariat, pour effectivement travailler, échanger sur des difficultés particulières de nos clients, ceux qui ont besoin effectivement d'aide. Au-delà des délais de paiement que EDF peut accorder, souvent à titre dérogatoire pour les ménages les plus modestes, mais des aides financières que peuvent verser effectivement l'ensemble de ces structures pour essayer de trouver une sortie et une résorption de la dette la plus efficace possible pour ces ménages qui en ont besoin.
Donc c'est vraiment la structuration territoriale, la structuration de terrain d'EDF qui permet d'être efficient sur le domaine.
Absolument, on est maillé sur tout le territoire et présent sur tout le territoire avec l'ensemble des partenaires locaux.
J'aimerais qu'on revienne sur une démarche. On a abordé deux fois cette notion de toit d'abord. Je disais, France, que vous en étiez la responsable de ce programme Toit d'abord. Vous pouvez nous le décrire en quelques mots ?
Oui, absolument. Tout d'abord, pour dire que la Fondation Abbé Pierre, comme je le disais avant, lutte contre le mal-logement. On a parlé également de précarité énergétique. En fait, la précarité énergétique, c'est le croisement de deux notions. Celle de la précarité d'une part et puis une notion relative à la consommation d'énergie. Mais souvent, tout ça se réalise dans le décor de ce que c'est qu'aujourd'hui l'accès au logement et puis la qualité du logement dans notre pays. Constatant qu'il y a 4 millions de personnes mal logées en France, en tout cas c'est ce que révélait l'enquête nationale logement 2013, constatant, vous l'avez évoqué en préambule, qu'il y a de nombreuses passoires thermiques, la Fondation consacre des moyens importants pour lutter concrètement contre ce mal-logement. C'est le cas du programme Toit d'abord, dont j'ai la responsabilité, qui depuis 2012 vient soutenir la production de logements très sociaux. On a depuis 2012 soutenu la création de 3800 logements dans toute la France, des logements destinés à des personnes très modestes, mais surtout des logements accessibles financièrement. Et performants énergétiquement.
Personne de tous âges.
Toute génération, bien sûr.
D'accord. Et alors, ces logements, c'est de la production de logements neufs, de la production...
Alors, pour 90% des logements, il s'agit de logements issus de réhabilitation, que ce soit dans des bâtiments qui contenaient déjà des logements ou qui avaient d'autres... qui proposaient d'autres activités. Et puis, pour 10% des cas, ce sont des constructions neuves. Dans tous les cas, l'objectif, c'est des loyers à bas coût, des charges maîtrisées et un accès prioritaire, en tout cas favorisé pour les personnes qui ont connu des grosses difficultés, qui n'ont pas de domicile personnel, qui ont vécu à la rue ou dans des hôtels meublés, etc. etc.
Et alors Nicolas, l'intervention d'EDF dans ce programme, Toit d'abord ?
Nous accompagnons Toit d'abord à travers les certificats d'économie d'énergie que nous valorisons. Et on sait qu'effectivement, c'est un point important du financement de cette rénovation. Et aujourd'hui, dans l'enquête qui a pu être menée sur quelques dizaines, je crois que c'est une soixantaine de logements qui ont été analysés pour avoir un peu l'impact effectivement des rénovations, parce que c'est ça le plus important.
Bien sûr.
C'est quel résultat en matière de consommation énergétique. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est 1 à 2 mois de revenus rendu, je dirais, aux habitants de ces logements après rénovation, environ 900 euros par an, qui, grâce aux travaux de rénovation, couplés effectivement à des actions de prévention, de MDE, pour ces ménages...
Nicolas, juste MDE ?
Maîtrise de la demande d'énergie.
Merci beaucoup.
C'est à travers ces actions de prévention aussi et d'accompagnement, au-delà de la rénovation du bâti, qui permet effectivement à ces ménages d'économiser de l'argent.
Oui, France.
Et je compléterai en disant que effectivement, EDF est un partenaire du programme Toit d'abord, mais il a été, même avant la création de ce programme, on a un partenariat de longue date. Et donc, c'est vrai qu'il y a... Enfin, c'est appréciable pour la Fondation d'avoir ce soutien, et ça lui donne des moyens supplémentaires qu'elle met à disposition des mal logés.
Et j'aimerais qu'on sache aussi un petit peu de façon concrète sur l'accompagnement de ces ménages à l'utilisation de ces logements. Parce que lorsqu'ils quittent un logement qui était dégradé ou en précarité énergétique, donc avec des solutions vraiment pas optimales, et lorsqu'on leur fait prendre un logement qui là pour le coup a des solutions performantes, pertinentes, quelles sont les dispositions que vous mettez pour les accompagner à l'usage de ce logement sur la partie chauffage et aussi les usages mobiliers, électroménagers et autres ?
Alors je dirais qu'en premier lieu, ce à quoi on essaye de veiller à travers notre soutien, et j'insiste aussi sur le fait que nous soutenons des opérations hein, portées par des associations et des bailleurs, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, mais en tout cas à travers ce soutien et le regard qu'on a sur les opérations, on veille à ce que le logement soit adapté. C'est la première des réponses d'après nous, c'est de produire des logements qui correspondent aux besoins des personnes, qui sont dimensionnés de la bonne façon, qui proposent des équipements dont l'usage permettra à la fois le confort et des consommations maîtrisées. Donc c'est là, pour nous, il y a une vraie réponse amont. Ensuite, les personnes qui accèdent à ces logements sont entourées en général, voire même parfois accompagnées avec un accompagnement social réalisé par un professionnel. Et donc dans ce cadre-là, on les aide à veiller à leur budget et à ouvrir l'ensemble de leurs droits notamment. Donc c'est notamment à travers l'intervention de ces professionnels qu'on peut avoir une action auprès des usagers.
Oui, Nicolas, vous vouliez dire un mot ?
Oui, ce que l'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, une fois la rénovation faite, ces ménages ont souvent malheureusement d'autres facteurs de précarité. Et donc, il est important, pour ceux qui en ont vraiment besoin, évidemment, de les orienter vers les services sociaux, que ce soit ceux des communes, les CCAS, ou les fonds de solidarité logement pour les départements. Et c'est là, à ce moment-là, effectivement, que DEF joue aussi un rôle en aval pour s'assurer que des aides puissent être versées à ces ménages et puissent continuer dans la durée, à être aidés pour payer leurs factures. On attend, je le disais tout à l'heure, une économie très forte hein, en matière de consommation d'énergie. En général, on essaye de passer de gagner 4 classes. On passe alors pour ceux qui connaissent les étiquettes de EFG en passant les étiquettes ABC.
Et oui, parce que globalement, ce qu'on a qualifié de passoire énergétique, c'est plutôt les étiquettes F et G, Dominique.
C'est ça. Hein,
c'est bien cela ?
C'est ça. C'est F et G qui sont les plus consommatrices d'énergie.
Et donc, mais bon. Une fois qu'on a gagné, entre guillemets, cette économie, je dirais, à travers les travaux de rénovation, il faut que dans la durée, effectivement, les habitudes de consommation vertueuses perdurent, mais éventuellement puissent être aussi complétées d'aides financières, le cas échéant.
Oui, France.
Je compléterai en disant que ces ménages, je pense que vous serez d'accord, bénéficient d'un accompagnement quand c'est nécessaire, jusqu'à ce que ce soit plus nécessaire, mais en tous les cas... Nous, on défend aussi une vision qu'il n'y a pas de prescription à l'accompagnement et que l'accompagnement n'est pas forcément toujours nécessaire. Les personnes qui accèdent à ces logements et sortent de la précarité énergétique n'ont pas nécessairement besoin d'un accompagnement ou d'apprendre des bons gestes. Bien souvent avant, puisqu'elles étaient en précarité énergétique, elles étaient déjà dans la restriction de leur consommation. Donc c'est souvent elles, enfin il arrive souvent que ce soit elles qui puissent aussi... donner des conseils ou être sachant en la matière.
Ils connaissent malheureusement bien le prix du kilowattheure.
Absolument.
J'aimerais que l'on aborde quelque chose, vous nous en parliez tout à l'heure en préambule de cette émission. Le don d'énergie, c'est quelque chose que la Fondation Abbé Pierre et EDF ont mis en place récemment, c'est un partenariat tout nouveau. Vous pouvez nous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. On est habitué à... aux collectes des banques alimentaires et autres, et on est sur une notion de don en nature, finalement, sur ce don d'énergie.
Alors, tout à fait, un don en nature qui se concrétise quand même en euros sonnant et trébuchant. Effectivement, notre recherche et développement, avec nos équipes aussi côté direction des particuliers et direction collectivité, on travaillait avec des designers, avec des sociologues, avec des financiers aussi, des spécialistes, je dirais, du don, pour travailler effectivement un dispositif très innovant qui démarre, qu'on a voulu tester. On a cherché effectivement une structure partenaire et on s'est dit, la Fondation Abbé Pierre était vraiment toute trouvée pour accompagner sur les fonds baptismaux ce dispositif. Et l'idée, c'est que voilà, un utilisateur du réseau, un client qui vient sur le ce qu'on appelle le fil d'actu sur EDF et moi, peut verser un don de 5 euros à beaucoup plus s'il le souhaite. Ce don est abondé à 100% par EDF. Et ensuite, ce don est, confié à la Fondation Abbé Pierre qui va l'attribuer, en fonction de ses priorités, de la connaissance, des personnes et des ménages qui en ont le plus
besoin.
Donc
EDF démultiplie le don fait par son client ?
Absolument.
abonde et c'est prélevé directement sur la facture du client qui souhaite donner.
Absolument, vous rentrez vos coordonnées bancaires et c'est débité de votre compte. Et donc aujourd'hui on démarre, hein. Aujourd'hui on est sur un don moyen d'à peu près 18 euros, on est sur quelques milliers d'euros pour l'instant qui ont été... donné dans le cadre de ce nouveau dispositif, mais pour lequel on n'a pas fait beaucoup de publicité.
Bien sûr, et c'est pour ça que c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui.
Et donc, nous en avons d'ailleurs parlé très récemment avec Henri Lafontaine, membre du comité exécutif, c'est un dispositif innovant, intéressant, que nous souhaitons d'abord démultiplier auprès des salariés d'EDF, et puis aller au-delà, effectivement, pouvoir en faire bénéficier les clients qui aujourd'hui sont des clients avec un compteur communicant Linky et avec un abonnement à l'application, enfin avec un téléchargement de l'application EDF et moi, mais d'aller peut-être au-delà de cette assiette de clients pour que effectivement démultiplier cette innovation.
Alors pour que tous nos amis auditeurs qui souhaiteraient faire ce don, et c'est une démarche vraiment vertueuse, et puis la période s'y prête en fin d'année, en période de froid qui arrive, on a bien compris qu'il y avait des personnes qui en avaient véritablement besoin. Donc les conditions matérielles, c'est être équipé du compteur communicant Linky.
Oui.
Et disposer de l'application EDF et moi.
C'est ça. Vous allez sur le fil, ce qu'on appelle le fil d'actu, sur le site EDF, donc avec donc l'application EDF et moi. Et là, vous aurez une petite fenêtre qui vous permettra de faire votre don avec des plus et des moins. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est parce que l'idée du don d'énergie, c'est quand même l'idée d'entraide sur le chauffage, mais bon, et sur plus généralement sur la consommation d'énergie. On a son voisin, on a un ami, une connaissance ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a besoin d'un geste, notamment pendant cette trêve hivernale. Eh bien, on sait dire, par exemple, je verse 5 euros, je sais que c'est l'équivalent d'une ampoule allumée sur l'année. Et je sais qu'en fait, à travers ces 5 euros, c'est pas beaucoup, qu'en plus, je vais pouvoir déduire de mes impôts à hauteur de 75%. Ce don-là va servir effectivement à un ménage, par exemple, à se chauffer un peu plus, à ne pas se priver de chauffage, à ne pas se priver. Quoi.
Ce que je propose, Dominique Desmoulins, et vous m'arrêtez si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est que sur le site internet de Promotelec, dans les jours qui viennent, sur www.promotelec.com, nous détaillons ce dispositif pour renvoyer vers les bonnes adresses sur les sites et d'EDF et de la Fondation Abbé Pierre pour que ce soit très clair pour nos amis auditeurs et qu'ils puissent vraiment œuvrer dans ce sens.
Bon, c'est une très bonne idée, mais j'aurais quand même vérifié que ce modèle n'est pas réservé au personnel d'EDF dans un premier temps.
On va vérifier ça, mais, ouais. Mais non, je ne crois pas. D'accord, non, il est accessible à tout, à toute personne qui d'accord. va sur l'application EDF et moi. Il y a parmi eux des salariés, mais l'idée, c'est d'en faire vraiment, de faire nos salariés de véritables ambassadeurs de cette application, mais qui est ouverte à tous.
D'accord. Et vous parlez d'euros, vous ne parlez pas de kilowattheures.
On parle d'euros, oui, mais par contre, on parle d'euros avec des équivalents jours de chauffage, nombre
d'accord.
de douches.
Euros transformés en kilowattheures, en jours de douche exactement. Et en nombre de jours ou d'heures d'ampoule, par exemple, allumées.
Absolument.
Ouais, très bien.
Et la France, vous êtes prêt à accompagner cette montée en puissance potentielle de kilowattheures qui arrive?
On se prépare. Ce seront des sommes, c'est déjà le cas, qui sont distribuées à travers ce que nous appelons les appels de détresse, des familles qui viennent vers nous avec des grosses difficultés pour payer leurs factures tout simplement, qui risquent des coupures, l'expulsion ou autre. Donc ça nous sert notamment à financer ça, mais aussi à des actions auprès des mal logés en général.
Très bien, merci. L'heure de la fin approche. Juste, vous le savez, depuis deux éditions de cette émission, vous pouvez, chers amis auditeurs, en amont, nous poser des questions sur la page Facebook de Promotelec. J'ai retenu deux questions parce qu'elles me paraissaient symptomatiques. L'une de Cédric, qui nous dit « Pourquoi ne mettons pas plus d'impact et d'aide pour le développement du photovoltaïque ?» Et je pense que c'est en corrélation avec la précarité énergétique. Nicolas, c'est quelque chose qui est envisageable d'accompagner les bâtiments avec du photovoltaïque pour lutter contre la précarité énergétique?
Oui, alors ce sont des modèles en réflexion très avancés côté EDF. Nous avons d'ores et déjà nous des offres hein, évidemment sur la consommation, sur l'autoconsommation individuelle. Nous réfléchissons aussi en lien avec des bailleurs sociaux notamment sur des problématiques de consommation collective qui permettraient effectivement à terme de réduire la facture des résidents. Donc ça, c'est effectivement des choses qui se développent de plus en plus.
Et on a une autre question, Dominique, je pense qu'elle s'adresse plus à vous, une question de Daniel qui nous dit « Intervenez-vous dans tous les domaines de l'énergie, solaire et autres, ou uniquement sur l'énergie électrique ?»
Même si on s'appelle Promotelec, on intervient sur tous les domaines de l'énergie, que ce soit du gaz, de la géothermie, du photovoltaïque, voire de l'éolien.
Alors on le voit, ces deux questions, est-ce prémonitoire ou pas, parlent d'énergie solaire et de production photovoltaïque. Ce sera le sujet de notre prochaine émission du mois de janvier. Donc on vous donne rendez-vous pour cette émission de janvier. Et dans un instant, la parole sera à Dominique Desmoulins pour clôturer cette émission.
Le confort dans l'habitat. Parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Bon, tout d'abord, je suis ravi de vous avoir accueilli et je vous remercie. Et puis, on voit bien qu'il y a de nombreux moyens de lutter contre cette précarité énergétique, puisqu'on a parlé de toit d'abord, on a parlé de dons d'énergie, on parle de certificat d'économie d'énergie. Alors tout ça n'est évidemment pas suffisant, donc il faut encore d'autres idées, d'autres innovations pour progresser dans ce domaine, et il faut appeler toutes les compétences qui peuvent avoir des idées pour, je dirais, lutter contre cette précarité. Et en conclusion, je dirais que la précarité, ça concerne, comme ça a été dit par France, 90% de réhabilitation. Donc le sujet, c'est la rénovation, on y est encore. Et pour nous, pour Hôtelec, la rénovation, c'est une rénovation responsable qu'on qualifie par trois domaines. Premièrement, une baisse de la consommation d'énergie, et une baisse du carbone, c'est-à-dire que globalement, on ne peut pas rénover et mettre plus de carbone après qu'avant, ça c'est fondamental. Deuxièmement, c'est des justes travaux qu'on qualifie par des travaux raisonnés et raisonnables. Et dernièrement, ça a été dit aussi, qu'on tienne compte de l'habitant et qu'on tienne compte de ses desiderata, puisque si c'est pour un agrandissement, on le fait. Si c'est pour des économies avec une chaudière, on le fait aussi. Si c'est pour de l'isolation aussi. Mais on tient compte de l'habitant et on ne lui impose pas le mode de rénovation. C'est important de l'inclure dans la démarche. Voilà.
Merci à tous, merci de votre présence et à très vite sur les ondes de Radio Immo.
Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.